Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, l'heure de vérité, de l'actualité. Voici votre grande édition du journal sur Radio Capi, la radio de la paix. Au micro, Gisèle Cage pour vous livrer l'essentiel de l'actualité. Place maintenant au titre, alerte maximale en Ituri. Les élus tirent le signal fort alors que la sécurité s'effondre sous les attaques répétées de ZADF. Les parlementaires tapent du poing sur la table et exigent des mesures immédiates, visibles et irréversibles pour protéger des populations à bout de souffle. Farine introuvable à Lubumbashi. La chaîne d'approvisionnement casse. L'effondrement du pont de Kakoso perturbe tous les flux du maïs zambien vers Kasumbalesa, provoquant pénurie, hausse de prix et tensions sur les marchés locaux. Assemblée nationale, session sous haute surveillance. À invité de Radio Okapi, Jacques Joly annonce une session axée sur un contrôle renforcé de l'action du gouvernement avec un focus sur les urgences sécuritaires et socio-économiques. En Ituri, la tension monte d'un cran. Nouvelle flambée de violence, nouvelle attaque attribuée aux ADF dans le territoire de Mambasa. Et cette fois, le parlementaire dit stop. Réunis ce mardi au Palais du Peuple, les élus de la province tirent la sonnette d'alarme. Ils parlent d'une situation sécuritaire alarmante qui se dégrade de jour en jour et exigent des mesures fortes, immédiates pour protéger les populations. À la tête du caucus, Pitou Iribi détaille les démarches engagées auprès des autorités. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Grace Amzati.
Depuis une semaine, le territoire de Mambasa connaît une attaque de forces négatives de ADF Nalu. Depuis, ils sont en train de parsemer le deuil au sein de la communauté itourienne. Nous nous associons d'abord à la douleur de la population de Mambasa. Parce que depuis une semaine, cette population est en train de souffrir et passe de mauvais moments. De massacres à ciel ouvert sont perpétrés. Des gens sont morts et d'autres sont encore en errance. Ils savent pas où mettre la tête. Nous exprimons toutes nos compassions à cette population. Mais nous appelons aussi nos forces armées de prendre les dispositions idoines pour sécuriser la population. Nous rassurons cette population que nous, les élus, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour que nous puissions définir un programme de travail et bientôt des rendez-vous avec les officiels sont en train d'être pris pour rencontrer le vice-premier ministre de la Défense, les chefs d'état-major et général ainsi que les autres.
Et justement, en Ituri, la situation reste explosive. À Babessoa, une attaque d'une rare violence a coûté la vie à une dizaine de personnes lundi. Plusieurs maisons ont été réduites en cendres et un camion transportant des produits pétroliers incendié, paralysant la RN4. Et en Ituri, toujours un souffle de répit pour les déplacés. Après des semaines de fuite et d'incertitude, près de 15 000 personnes ayant échappé aux récentes violences dans les territoires de Djougou ont reçu ce lundi une assistance humanitaire d'urgence dans la zone de santé des Kambala en territoire du Mahagi. Une transition essentielle dans un contexte où des familles entières vivent dans une précarité extrême. Cette aide fournie dans le cadre du projet Réponse rapide de l'UNICEF et mise en œuvre par l'ONG Programme de promotion de soins de santé primaire vise à réduire la vulnérabilité de ces communautés profondément affectées. Le point avec Isaac Remoyope.
Chaque famille bénéficiaire a reçu des articles ménagers essentiels. Il s'agit notamment d'ustensiles de cuisine, des nattes, des couvertures, des gobelets et des bidons pour la conservation de l'eau. À cela s'ajoutent des pagnes, des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréer, du savon pour la lessive ainsi que des produits pour la chloration de l'eau potable. Ces bénéficiaires sont des personnes déplacées et enfouies au cours de ces trois derniers mois. Les affrontements entre les groupes armés Convention pour la Révolution Populaire CRP et les FARDC dans les territoires des Djougou. Selon les chargés de communication de l'ONG PPCSP, ces familles vivaient jusque-là dans une précarité extrême. Trésor Muyumba explique l'importance de cette assistance humanitaire.
L'objectif est d'améliorer tant soit peu les conditions de vie de ces déplacés, qui sont les déplacés ne dépassant pas 3 mois.
Présent lors de cette activité, le chef du secteur de Walindu Watsi a salué cette intervention en faveur des sinistrés. Il souligne toutefois que les besoins restent énormes et lance un appel aux partenaires humanitaires, tout à l'air assurant que la sécurité est garantie dans son entité, l'Otoma Feti.
Il y a encore des besoins qui restent. Je voudrais que ça continue à n'accomplir. Je voudrais que les partenaires papiers viennent.
Il convient de noter que la majorité des personnes déplacées réparties dans plus de 60 sites à Nitouri ne bénéficient plus d'une assistance alimentaire en raison du manque de financement au niveau international. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
En mission à Goma depuis lundi, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC et chef intérimaire de la MONUSCO, Bruno Le Marquis, hausse le ton. Il appelle le responsable de la rébellion AFC M23 qui occupe la zone au respect absolu de l'espace humanitaire. Un message passé lors d'une rencontre avec les autorités installées de facto à Goma et des environs conduite par Corneille Nanga. Selon Bruno Le Marquis, les échanges ont porté exclusivement sur les enjeux humanitaires et la nécessité urgente de garantir un accès sécurisé aux populations vulnérables. On l'écoute.
On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires puissent avoir accès aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer.
Et puis pour compléter cette visite, rappelons que Bruno Le Marquis s'est également rendu à Sake dans le territoire de Massissi, ainsi que dans celui de Nyiragongo. Sur place, il a évalué plusieurs projets destinés à renforcer la résilience des communautés locales particulièrement éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire. Province du Haut-Katanga et c'est la grogne dans le marché de Lubumbashi. Le prix de la farine de maïs s'envole depuis quelques jours et la raison est toute trouvée. L'effondrement du pont de Kakoso en Zambie, principal corridor d'approvisionnement. Résultat, les cargaisons accusent du retard, les dépôts se vident et la farine, aliment de base de Lushua, s'est fait rare. Pour rappel, la majorité du maïs consommé à Lubumbashi arrive de Zambie via Kasumbalesa, la porte d'entrée frontalière. D'autres précisions avec Paulin Monanga.
Un sac de 25 kilos de la farine de maïs qui se vend actuellement à 55 000 francs congolais, voire 60 000 francs sur le marché local à Lubumbashi, s'est négocié il y a peu entre 35 000 et 38 000 francs congolais. Profitant de cette situation, certains commerçants véreux spéculent sur le prix de cette denrée alimentaire. D'autres se décident carrément de ne pas écouler leur stock, attendant que le prix de la farine de maïs se stabilise. À la base de cette hausse de prix, l'effondrement du pont de Kakoso survenu à la fin du mois de février dernier. Ce pont est situé sur l'axe routier Chingola-Chililabombwe en Zambie. Il relie plusieurs zones agricoles et industrielles de la Zambie à la frontière de Kasumbalesa, rapporte certaines sources. Les autorités routières zambiennes soulignent que l'ouvrage s'est effondré à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans la région. Et lorsque la circulation est perturbée sur cette route, l'approvisionnement du marché est affecté. Signalons que depuis l'effondrement du pont, les transporteurs empruntent des routes plus longues pour contourner le pont, ce qui impacte sur les prix des produits dont la farine de maïs. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et puis nous venons de l'apprendre, le deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, vient de démissionner de ses fonctions. C'est là quelques heures après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition déposée contre lui par un groupe de sénateurs qui l'accusent d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Des allégations rejetées par son camp politique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur Radio Okapi. Et dans la province province de la Lomami, Mouenéditou tourne au ralenti. Depuis lundi, la ville ferroviaire est quasiment à l'arrêt, boutiques fermées, commerces paralysés. En cause, selon la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Mouenéditou, un ras-le-bol des opérateurs économiques face à la hausse d'impôts professionnels sur leur rémunération au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et à l'application du SMIG jugé insoutenable dans le contexte actuel. Un mouvement de protestation qui étouffe l'activité économique et inquiète les habitants. Des explications avec Esther Nalafina.
Les activités économiques sont paralysées à Mouenéditou. Les propriétaires de magasins et boutiques ont décidé de suspendre momentanément leurs activités. Plusieurs réclamations ont été annoncées ce mardi au maire de la ville qui a voulu s'enquérir de la situation.
Tracasserie.
Il y a des tracasseries commises par les agents de la DGI. Nous ne refusons pas de payer les impôts. Nous refusons plutôt la tracasserie. Ils nous font payer les impôts et chaque mois, ils les augmentent.
D'autres sont allés plus loin jusqu'à exiger le départ du chef des centres synthétiques de la DGI, Mouenéditou, affirme la FEC. Pour baisser la tension, Gérard Chibanda, maire de la ville, dit avoir invité d'urgence les responsables de la DGI pour discuter autour du problème qui les oppose aux commerçants.
J'ai appelé le chef de la DGI à 15h. Je vais l'écouter. J'ai déjà informé le gouverneur titulaire et son adjoint. Je me suis investi. Soyez donc calme.
Les conséquences se font déjà sentir. Betty Mujinga, une ménagère, ne sait plus acheter les articles au magasin. Signalons que tous les opérateurs économiques sont invités ce mercredi à la mairie de Mouenéditou pour des discussions. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Kinshasa, l'action contre les violations de droits des personnes vulnérables. Une ONG spécialisée dans la défense des droits humains des groupes les plus fragiles s'intéresse de près à l'opération de contrôle des documents des bords lancée ce dernière semaine par le gouvernement provincial. Pour comprendre comment cette campagne est vécue sur le terrain, l'organisation mène actuellement un grand sondage auprès des conducteurs et usagers de la route. Objectif, mesurer l'impact réel de ce contrôle, identifier d'éventuelles tracasseries et recueillir la perception des Kinois. Selon son président national, Crispin Kobolongo, cette enquête lancée vendredi dernier va durer un mois. À l'issue du processus, un rapport détaillé sera transmis aux autorités afin d'orienter leurs décisions et, si nécessaire, corriger le tir. On l'écoute, joint au téléphone par John Kiboaboa.
Notre organisation Action contre les violations des droits des personnes a lancé effectivement cette enquête citoyenne sur le contrôle des documents des véhicules dans la ville de pauvreté. L'objectif est d'analyser les effets réels de cette opération sur la population et les conducteurs.
L'enquête a été lancée le 13 mars de ces mois. Aujourd'hui, le 18 mars, où en êtes-vous et quelle est la tendance sur terrain?
D'après les éléments de notre position, les enquêteurs qui répondent aux questionnaires de l'enquête disent qu'il y a trop de tracasseries. Il y a quelques acquis des droits de l'homme par rapport à cette enquête. Il y a d'autres conséquences par rapport au manque de transport en commun. Les gens marchent à pied et voilà ce que nous avons comme dernier élément par rapport à cette. Bon, la finalité de cette enquête, c'est de fournir un rapport qui sera présenté auprès des autorités.
En Nord Kivu, la situation sanitaire reste préoccupante. Depuis plus de 6 mois, plusieurs zones de santé font face à une flambée continue des cas de rougeole. Chaque jour, de nouveaux patients affluent dans les centres de santé à travers la province. Si beaucoup d'enfants peuvent être pris en charge sur place, d'autres en revanche développent des complications graves en nécessitant de soins spécialisés. Pour répondre à cette urgence, Médecins Sans Frontières vient d'ouvrir un centre de prise en charge gratuite des complications liées à la rougeole à l'hôpital de Kichero de Goma. Une bouffée d'oxygène pour des familles souvent démunies et une initiative largement saluée par les parents. Rosalie Zawadi a visité ces centres et nous livre son reportage.
Avant d'accéder au centre, il faut d'abord se laver les mains.
Situé à l'écart au sein de l'hôpital général des références de Kichero, ces centres respectent un protocole strict dans la réception des cas référés par les centres de santé de Goma, Karisim Bieniragungu. Cette mère, qui s'est réjouie de voir aujourd'hui son enfant jouer sur son lit d'hôpital, se rappelle dans quel état il a été admis ici.
Quand je suis arrivée ici, l'état de mon enfant était très grave. Il avait
une forte fièvre, la grippe, une toux qui ne s'arrêtait pas pendant que je circulais dans les pharmacies pour chercher les médicaments qui n'amélioraient même pas l'état de l'enfant. On m'a dit que je pouvais venir ici pour une bonne prise en charge. Et depuis que je suis là, son état s'améliore et nous disons merci à tous ceux qui interviennent dans ces soins de nos enfants.
Comme il a connu l'angoisse de voir son enfant lutter contre les complications de la rougeole, cette mère invite les autres à ne pas rater les rendez-vous de la campagne de vaccination des masses en cours. Pour sa part, le docteur Ahadi Kamabou, coordonnateur médical pour MSF de ce centre, explique que sur les 50 lits disponibles ici, la moyenne des fréquentations est de 20 à 30 lits depuis 6 mois. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Et puis direction le Maniema, où le chiffre donne le vertige, plus de 500 nouveaux cas de drépanocytose, appelés aussi anémie SS, ont été dépistés au cours de l'année 2025. Révélation du docteur Antoine Lufimbo, point focal du programme national de lutte contre la drépanocytose dans la province à l'issue d'une session de formation dédiée aux prestataires de santé. Objectif de cette formation, améliorer le dépistage, renforcer les compétences sur la prise en charge conforme au protocole national et surtout réduire la mortalité et la morbidité liées à cette maladie génétique qui frappe durement les enfants. On écoute le docteur Antoine Lufimbo au micro de Florence Kizalunga.
La drépanocytose, c'est un problème sérieux de santé publique. Il a été prouvé qu'environ 2 à 3% des enfants naissent avec l'anémie SS. On a même montré que presque 10% des femmes qui décèdent sont porteurs du gène S. Donc c'est un sérieux problème de santé publique. Et également, dans la province du Maniema, les statistiques ont montré que durant l'année 2025, il y a eu plus de 500 nouveaux cas de drépanocytose qui ont été dépistés. Et donc c'est un sérieux problème. Après cette session de formation, nous espérons que les IT vont commencer maintenant à prendre en charge correctement les drépanocytaires selon les normes et directives nationales, en organisant correctement les suivis, mais également en prenant en charge les cas qui sont bénins et les cas qui sont sévères vont être transférés à l'hôpital général de référence. Notre objectif final, c'est de participer au dépistage des masses pour que les enfants, les adultes, chacun connaisse son électrophorèse d'hémoglobine et ainsi éviter des mariages à risque, les mariages entre AS-AS ou bien les mariages entre AS-SS.
Et puis avant d'ouvrir la page internationale, une triste nouvelle, la RDC perd l'une de ses plus grandes figures politiques féminines, Madame Catherine Nzunzi-Wambombo, doyenne des femmes politiques, est décédée cet après-midi à la clinique Ngalima à l'âge de 82 ans, selon son avocat Jean-Pierre Nkombe, pionnière de l'engagement féminin. Elle avait commencé sa carrière à 23 ans comme bourgmestre de la Gombe avant d'occuper plusieurs hautes fonctions, commissaire provincial, vice-gouverneur de Kinshasa, gouverneur du Bas-Zaïre, puis de Kinshasa, dirigeante du Imper, et elle en fut vice-présidente puis candidate à la présidentielle de 2006. Elle a également accompagné l'ouverture politique des années 1990 comme conseillère particulière du chef de l'État, très engagée pour la promotion de la femme. Elle préside plusieurs ONG dédiées à l'encadrement des femmes commerçantes. Paix à son âme.
Actualité internationale.
Face à l'escalade des risques en mer liés à la guerre au Moyen-Orient, l'Organisation maritime internationale hausse le ton. Le chef de l'Agence maritime de l'ONU a appelé mercredi les compagnies de navigation à éviter le détroit d'Ormuz afin de protéger la vie de marins. Ce passage stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial est largement paralysé depuis le début du conflit opposant les États-Unis, Israël et l'Iran. Cette situation alimente la flambée de prix de l'énergie et ravive des craintes d'inflation. Depuis le 28 février, date des frappes israélo-américaines sur l'Iran qui ont embrasé la région, au moins 7 marins ont été tués et plusieurs autres blessés dans des attaques contre les navires marchands. Réunis en session extraordinaire à Londres, le directeur général de l'Agence maritime de l'ONU a exhorté les armateurs à faire preuve de prudence maximale et autant que possible à contourner la zone, rappelant que la sécurité des équipages doit rester la priorité.
L'invité.
Au Palais du Peuple, les tons est donné pour cette nouvelle session parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale promet de muscler le contrôle de l'action du gouvernement. C'est ce qu'a annoncé ce mardi son rapporteur Jacques Joly dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Selon lui, plusieurs dossiers majeurs, qu'ils soient sécuritaires ou socio-économiques, seront passés au peigne fin avec un objectif clair, répondre aux attentes concrètes des Congolais et exiger une action gouvernementale plus efficace. Le rapporteur de la Chambre basse, Jacques Joly, s'est entretenu avec Grace Amzati.
Jacques Joly, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les matières sur lesquelles vous allez vous pencher tout de suite?
Je crois que les matières se priorisent en fonction du contexte et des attentes de notre population dont nous ne sommes que de simples représentants. À cet effet, il faut savoir que la session de mars, c'est une session essentiellement des contrôles. Donc, nous allons auditionner l'ensemble des institutions, surtout les institutions d'appui à la démocratie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les matières non législatives. Dans ces matières non législatives aussi, il faut mettre le contrôle parlementaire. Comme le président l'a dit, nous allons rationaliser ces contrôles parce que nous avons plus ou moins 80 questions écrites et orales. Il faudra donc essayer d'y gérer pour que sur les 3 mois, c'est-à-dire les 12 semaines, nous puissions, n'est-ce pas, accroître le taux de réponse ou d'élucidation de ces questions orales qui est assez faible et qu'il faudra, n'est-ce pas, augmenter et densifier. Sur les matières législatives, nous avons des arriérés législatifs. Certains arriérés législatifs sont des initiatives qui doivent faire l'objet d'analyses et d'examens en commission paritaire. Mais il y a énormément de questions qui sont dans les commissions pour lesquelles nous allons essayer de vitaliser l'action des commissions pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, ramener les matières à la plénière. Toujours sur ces plans législatifs, et c'est là des questions, je dirais pas prioritaires, mais des questions très importantes qu'il faudra examiner. Il s'agit notamment des projets de loi autorisant le président de la République à ratifier les accords de Washington entre nous et les États-Unis sur les questions stratégiques et des coopérations renforcées, tout comme l'accord que nous avons signé avec le Rwanda pour fixer les cadres d'intégration régionale qui doit nous amener à reconnaître la souveraineté permanente de la République démocratique du Congo sur ses ressources et la possibilité de coopérer avec les voisins, nous les avons 9. Alors, ces deux matières, il faudra aussi coupler avec une loi sur le projet Inga, qui doit, n'est-ce pas, être le pivot de la réindustrialisation de notre pays. Et au-delà de cela, il y a une loi qui est très intéressante, très importante, c'est la loi sur les zones économiques spéciales, tout comme les lois liées à l'entrepreneuriat pour booster notre économie.
L'opposition vous accuse, vous, membres du bureau, de bloquer parfois les contrôles parlementaires pour couvrir le gouvernement. Qu'en dites-vous?
Le bureau n'est pas là pour protéger le gouvernement. Si vous prenez les statistiques, en ce qui concerne les questions écrites par exemple, le taux de réponse du gouvernement dépasse le 75%. Sur l'ensemble des questions reçues. Il était fait que la session passée, les questions orales avec débat n'ont pas dépassé les 7 à 8%. Non pas simplement parce que les ministres n'étaient pas disponibles, mais aussi parfois parce que les députés qui a invité les ministres n'étaient pas là. Il faut souligner que la session passée, la session de septembre, a été une session particulière. De septembre jusqu'au 15 novembre, l'Assemblée était préoccupée par le changement de membres du bureau. Donc, on a eu à travailler simplement pendant 1 mois, et pendant cette période-là, c'est essentiellement la reddition des comptes, le budget. Je crois que nous allons prendre en charge cette question de l'impératif de densifier les contrôles.
De manière résumée, qu'est-ce que cette population peut attendre de vous durant cette session?
La population veut que toutes les questions que nous avons entendues, les problèmes soulevés lors de nos vacances parlementaires, soient synthétisés et trouvent des solutions. La population veut de routes, veut de solutions en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. La population veut des solutions pour l'amélioration de la gouvernance globale et locale. La population veut que ses besoins sociaux de base soient résolus, santé, éducation, logement, eau, et toutes ces questions seront ou sont prises en charge par l'Assemblée nationale.
Jacques Djoli, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà pour les explications de Jacques Djoli, rapporteur de l'Assemblée nationale et invité de Radio Okapi. Il revient ici sur les grandes priorités de cette nouvelle session parlementaire marquée par un contrôle renforcé de l'action du gouvernement et l'examen de plusieurs dossiers clés, sécuritaires comme socio-économiques. Un entretien conduit par Grace Amzati. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal préparé par toute la rédaction de Radio Okapi à la mise en onde. Et grand merci à Alain Goy. Cette édition vous a été présentée par Gisèle Cage. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. On se retrouve très bientôt, toujours sur la Radio Okapi, pour continuer à vous informer au plus près de l'actualité. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos contenus sur radiookapi.net et sur nos plateformes numériques et réseaux sociaux. Excellente soirée à toutes et à tous et à très vite sur Radio Okapi.